Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On va ouvrir la parole de Dieu ce matin. La thématique de notre culte, c'est « Garde le bon dépôt ». J'avais ce message à cœur depuis quelques semaines maintenant. Et il y a deux versets sur lesquels on va s'attarder un peu. La première de Paul à Timothée au chapitre 6 et au verset 20. Où Paul écrit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Et le deuxième verset se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Il y en a eu deux, donc deux lettres qui ont été envoyées à Timothée. Au chapitre 1er, au verset 14, où Paul parle de nouveau du dépôt. Et cette fois-ci, il le caractérise de bon dépôt et lui dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Il y a dans nos vies des moments de gravité que nous sommes appelés à traverser. Des temps où les mots ont leur importance et où les actes ne sont pas sans conséquences pour l'avenir. Ainsi, si la première épître de Paul à Timothée fut une lettre pleine de conseils d'un apôtre à son fils spirituel, qu'il appelle même son fils bien-aimé en la foi, Timothée était responsable de l'église d'Éphèse, il était donc pasteur, jeune pasteur, très jeune pasteur, avec une lourde responsabilité comme tous les pasteurs. Donc la première épître était une lettre qui donne énormément de conseils à ce jeune pasteur. Et la seconde épître de Timothée est considérée comme le testament de l'apôtre Paul. C'est en effet le dernier écrit de Paul dans sa vie. Et cette épître est considérée comme son testament, mais un testament adressé à ce fils spirituel. Et évidemment, un testament réclame d'avoir des mots importants. Testament, c'est aussi nos dernières volontés qui sont couchées dessus. Et on voit que parfois les testaments, surtout avec l'actualité des people actuellement, ça laisse un peu dubitatif certains testaments lorsqu'ils sont ouverts, ça crée même des scandales. Et donc le testament, c'est quelque chose de très important. Dans tout ce que Paul légua à Timothée, il y avait, en lisant cette seconde épître, évidemment de précieux conseils qui était motivé par une vision claire de l'apôtre et un réel discernement de sa part. Paul était un homme de Dieu et il ressentait les choses. Mais ces deux épîtres sont aussi un puissant moyen d'édification et d'exhortation, on pourrait dire d'encouragement, qui nous sont encore adressés aujourd'hui. Ils sont évidemment adressés à Timothée. On pourra dire, ah ben, c'est pas pour nous, c'est pour Timothée. Mais que Dieu soit béni, que ces deux lettres adressées à Timothée soient aujourd'hui dans nos Bibles et que nous puissions les lire comme si elles nous étaient adressées à nous. Amen. Puissant moyen d'encouragement pour nous. Évidemment, ces textes n'ont réellement pas perdu de leur pertinence, même si ce sont des textes qui datent. Ils sont encore dans une actualité tellement importante pour nos vies. Alors que je méditais sur ces écrits de Paul, je me disais que le fait de rédiger son testament n'est pas un exercice léger à effectuer. En fait, c'est clairement envisager sa mort que de faire son testament. Et on n'aime pas envisager sa mort. On n'aime pas y penser même. Donc c'est envisager clairement sa mort et la manière dont on souhaite répartir ses biens après sa mort. C'est faire l'inventaire de ce que l'on possède afin de léguer ses biens à ceux que l'on considère comme étant ses héritiers. Paul n'était certainement pas un riche propriétaire terrien et Timothée ne devait pas s'attendre à hériter de biens immobiliers, de biens en matière sonnante et trébuchante. Paul était un homme de conditions modestes. Mais tandis qu'il arrivait à la fin de son voyage, il voulut transmettre à Timothée les choses les plus importantes, les plus précieuses, les plus essentielles. C'est pourquoi il rappela par trois versets différents dans ses deux épîtres le caractère important de devoir garder le dépôt. On pourrait se poser la question, mais de quel dépôt Paul est en train de nous parler? De quoi est-il question? De quel dépôt? Voilà en quoi consistait tout l'héritage de Paul. C'était transmettre à son fils bien-aimé dans la foi cette notion de dépôt. Nous pourrions penser que Paul aurait pu transmettre à ce moment précis de sa vie quelques points importants de doctrine. Voilà les dernières méditations, les dernières recherches que j'ai pu faire, Timothée, en ce qui concerne la doctrine de l'Église, etc. etc. Non. Dans les deux épîtres à Timothée, il n'y a pas forcément des points de doctrine fondamentaux. Il aurait pu peut-être transmettre quelques fraîches révélations. Voilà, Timothée, sache que alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé d'une manière particulière et tellement importante que j'aimerais te transmettre ces choses. Non ? Il aurait pu lui faire part de ses certitudes qui animaient sa foi concernant l'éternité. Oui, Paul était au bout de sa vie, donc il aurait pu parler de l'éternité, de la notion d'éternité, ou de la vie après la mort. Voilà ce que j'espère, voilà ce en quoi je crois, Timothée, en ce qui concerne l'après-vie, quoi. Mais non, le principal point de Paul fut d'exhorter Timothée à garder le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Et dans ce passage, on sent tout le caractère protecteur de l'apôtre et toute l'affection qu'il portait à Timothée. L'expression « Oh Timothée », ce n'est pas juste Timothée, c'est « Oh Timothée ». Il y a un accent qui est mis là, un accent d'un père pour son fils. « Oh mon fils ». Il y a une insistance quand on étudie le texte, on le ressent. Et ça illustre toute l'émotion qui était associée à l'exhortation, au conseil de Paul. Et Timothée, dont le prénom signifie « celui qui honore Dieu », était incité par l'apôtre à se montrer digne de son prénom, parce que c'est bien d'avoir un prénom. C'est mieux d'en être digne, c'est-à-dire de l'incarner, surtout quand c'est un prénom qui nous appelle à honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est garder le bon dépôt. Honorer Dieu consiste à garder le bon dépôt. Et à ce point du message, la question peut déjà se poser à nous. Avons-nous gardé le bon dépôt? Est-ce que nous avons déjà gardé tout ce que nous avons reçu? Et est-ce que la vie chrétienne consiste juste à garder le dépôt, à veiller dessus et peut-être à le rendre à un moment donné, sans qu'il ait bougé, sans qu'il ait changé. Le terme « garder » évoque le fait de conserver des objets de valeur en lieu sûr. Il est question de garder une chose pour qu'elle ne se perde pas et ne soit pas endommagée. Un tel verbe parle du fait de devoir veiller. Veille sur le dépôt. Garde le dépôt. Garder, c'est avoir l'œil sur quelque chose de peur qu'il nous échappe ou de crainte qu'il soit dépouillé. C'est empêcher qu'il soit emporté au loin. C'est préserver sa sécurité, son intégralité, de peur de le perdre, qu'il périsse. C'est aussi en prendre soin. Si je vous dis « garde mon enfant », je suppose que tu ne vas pas juste à mettre tes yeux sur lui, mais que tu vas en prendre soin. Garde le bon dépôt, c'est prends soin de ce dépôt. Le verbe garder a été utilisé le plus souvent pour désigner le fait de protéger un palais contre les maraudeurs et les voleurs. En fait, c'est un terme militaire dans le grec biblique qui parle de travail, du travail d'une sentinelle, de la responsabilité de défendre, même au prix de sa vie, ce qui nous a été confié. Et quand Paul dit à Timothée, « Oh Timothée, oh Timothée, garde le dépôt », c'est un terme militaire. Comme une sentinelle va garder ce qu'on lui confie, c'est au prix de ta vie que tu dois le garder. Si quoi que ce soit devait arriver, défends-le jusqu'à ton dernier souffle. Engage ta vie à garder ce qui t'a été confié. Lorsque Paul écrivait à Timothée de garder le bon dépôt, ce dernier comprenait toute l'importance et tout l'enjeu que cela représentait. Garder le bon dépôt suppose un engagement entier et une vigilance particulière. Paul n'ignorait pas qu'il y avait des hommes qui cherchaient à corrompre l'Évangile et à dépouiller l'Église de ce trésor sans prix qui lui a été confié. C'est pourquoi Timothée devait être sur ses gardes, surtout en tant que responsable de l'Église. Timothée devait garder le dépôt désignant une chose consignée, une responsabilité confiée à un gardien fidèle. Ce dépôt d'une inestimable valeur, cette connaissance correcte et cette pure doctrine de l'Évangile devait être gardée fermement et dispensée loyalement. Parce que c'était pas juste de le garder, c'était aussi de le dispenser, de le répandre. On comprend mieux alors les paroles de Paul à Timothée dans la deuxième épître, au chapitre 2 et au verset 2, où Paul va dire « Et ce que tu as entendu de moi !» Parce que Paul avait déjà transféré ce dépôt sur lequel il dit à Timothée « Veille !»« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à ton tour à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il y a une question de recevoir et il y a une question de transmettre. Recevoir, c'est pas très difficile, tu t'assois dans l'église et t'écoutes. Tu ouvres ta Bible et tu lis. Transmettre, c'est autre chose. Il y a beaucoup de récepteurs, mais peu de transmetteurs. Et nous sommes appelés pas seulement à recevoir, mais nous sommes aussi appelés à transmettre. Et transmettre avec fidélité, sans altérer le contenu. Transmettre la sainte doctrine, transmettre la sainte parole de Dieu. C'est important cela. Nous devons comprendre que l'Évangile est une révélation déposée dans nos cœurs par Dieu, qu'il est un trésor inestimable, que nous devons utiliser afin de bénir les autres sans pour autant l'altérer. Mais comment garder le bon dépôt? Comment pouvons-nous garder le bon dépôt? Pour garder le dépôt, Paul va donner à Timothée deux recommandations importantes. Évite les discours vains et profanes. Eh oui. Le verbe éviter a pour sens de se détourner d'eux. Évite, détourne-toi des discussions vaines et profanes. Paul prévient Timothée qu'il doit fuir la fausse doctrine et qu'il doit s'en détourner littéralement. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Et l'adjectif profane caractérise la teneur des discours à éviter. Ce terme désignait à l'origine tout ce qui se trouvait en dehors des lieux sacrés du temple grec. C'est-à-dire dans le temple se trouvaient les choses sacrées, tout ce qui était en dehors du temple était considéré comme étant profane. Et Paul dit à Timothée, évite les discours profanes, c'est-à-dire tous les discours qui sont en dehors de ce qui concerne la foi en Dieu. Évite-les. Aujourd'hui, il parle de tout ce qui est hors du règne de la vérité biblique et qui par ce fait est déclaré impie. Parce que dans 2 Timothée 2,16, Paul communiquera une nouvelle mise en garde à Timothée. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est-à-dire, si tu te laisses entraîner dans ces discours, eh bien tu avanceras avec eux dans l'impiété. Tu te retrouveras dans l'impiété à force de discuter avec les impies. Le deuxième conseil qu'il lui dit, c'est évite les disputes de la fausse science. En fait, ce n'est pas la science, c'est une traduction d'un terme grec. Mais en réalité, c'est plus juste de dire évite les disputes de la fausse connaissance. Il y a une vraie connaissance et il y a une fausse connaissance. Il y a une manière biblique d'interpréter la Bible et il y a une manière non biblique de l'interpréter. Et Paul va dire, évite les disputes de la fausse science, de la fausse connaissance. Et quand Paul parle de disputes, il employait un terme qui caractérisait le fait des contre-propositions lors d'un débat. On appelle ça l'antithésis ou l'antithèse, le discours opposé. Évite les discussions d'opposition. Déclare la vérité, mais tous ceux-là qui contestent et qui sont dans des discours d'opposition, évite-les, évite ces disputes. Paul recommandait donc à Timothée d'éviter les disputes pseudo-intellectuelles de ceux qui ne cherchaient qu'à attaquer l'Écriture, car leur parole, dira Paul, ronge comme la gangrène. 2 Timothée 2,17. Pour Paul, un danger existait en raison des faux enseignements et ce danger est encore bien présent aujourd'hui et très malheureusement courant. Ouvrez Internet et vous allez vous en rendre compte. Mais comment peut-on garder le trésor de la vérité ? Pour garder le trésor de la vérité, il y a, j'en ai énuméré 7, ça va aller vite. La première, c'est en croyant à la parole de Dieu. Parce que le meilleur moyen de la garder, c'est d'y croire. C'est de la croire. Jésus l'a affirmé dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit. Deuxièmement, c'est en honorant cette parole, parce que ce n'est pas le tout de la croire, il faut l'honorer. D'ailleurs, Job, au chapitre 23 et au verset 12, dira « Je n'ai point abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et honorer la parole, c'est faire plier nos volontés devant elle. C'est la mettre en pratique dans nos vies. Troisièmement, en aimant la parole, au psaume 119, 97, il est dit « Combien j'aime ta loi, dira le psalmiste, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Aimer la parole, c'est un bon moyen de la garder. Quatrièmement, en obéissant à la parole, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. » Cinquièmement, en proclamant la parole, on la garde. Proclamer la parole, ce n'est pas la perdre, c'est l'augmenter en nous et dans l'autre. De Timothée 4, 2, Paul dira à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, mais avec douceur et tout en instruisant. Tu n'es pas fait pour rentrer dans les contestations et les discussions vaines. Il y a bien un discours que tu dois tenir. Il y a bien une parole qui doit être la tienne. C'est cette parole qui est ma parole. Combien de discussions vaines dans nos vies ? Combien d'occasions avons-nous raté de transmettre le dépôt que nous avons reçu ? En proclamant la parole. Sixièmement, en défendant la parole. Dans Jude 3, il est écrit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Défendre l'évangile, ça ne veut pas dire aller manifester dans la rue pour le droit. Non. C'est combat dans la prière. Combat pour que l'évangile puisse continuer à être répandu dans les cœurs et dans les vies. Prie. Intercède. Septièmement, c'est évidemment en étudiant cette parole dans Josué 1,8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Oh, le succès biblique, il ne vient pas d'un développement personnel, il vient d'un développement spirituel que l'on acquiert au travers de l'étude de la parole de Dieu. C'est ça le succès biblique. Ce qui est formidable, c'est de constater qu'en même temps, dans 2 Timothée 1,14, Paul va communiquer à Timothée toute l'assurance dont il avait besoin. Parce que Timothée est jeune, parce que Timothée est un jeune pasteur, parce qu'il est à la tête d'une église, et pas dans n'importe quelle ville, dans la ville d'Éphèse. Et si vous connaissez un peu l'histoire biblique, Éphèse, ce n'était pas un lieu simple, vraiment. Et la responsabilité de Timothée était réellement très grande. Mais Paul va amener Timothée à recevoir une assurance dans son cœur et dans sa vie. Garder le bon dépôt nécessite que nous accomplissions notre part. Je viens d'énumérer 7 points qui est de votre part. Et Timothée ne pouvait pas espérer pouvoir garder le trésor de l'évangile par lui-même. Le trésor est bien trop grand, bien trop important pour le garder seul. C'est vrai, quel homme serait suffisant pour une telle chose ? Qui pourrait conserver, avoir la prétention de garder ça seul ? Paul écrira dans 2 Timothée 1,14 « Garde le bon dépôt, mais pas seul !» par le Saint-Esprit qui habite en nous, Timothée. Et dans 2 Timothée 1:12, Paul va rajouter « Je suis persuadé que le Saint-Esprit a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour où je vais mourir et me retrouver devant Dieu à rendre compte de ce dépôt, à rendre compte de la gestion de ce dépôt dans ma vie. » Dans ces versets, Paul partage la conviction profonde qui est la sienne. Il sait en qui il a mis sa confiance, Paul. Et toi, sais-tu en qui tu as mis ta confiance ce matin? Et il est convaincu que le Saint-Esprit a le pouvoir de garder jusqu'au bout ce que le Seigneur lui a confié. J'ai reçu, je suis appelé à garder, mais pas seul, par le Saint-Esprit qui est en moi. Paul pouvait dire que ce dépôt était le sien, car le Christ le lui avait confié, mais il était également persuadé que le Seigneur lui-même le garderait jusqu'au jour où il allait devoir rendre compte de la manière dont il avait utilisé ce dépôt ou comment il l'avait fait valoir. À votre avis, lorsque Paul est arrivé dans la gloire, comment a-t-il été reçu? Bien ou pas bien? Il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que vous croyez que Paul avait fait valoir le dépôt qu'il avait reçu? Oui, évidemment. Je suis pleinement heureux pour l'apôtre Paul lorsque je vois sa vie, son ministère, et je me dis, waouh. Voire même, on pourrait en être jaloux. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir prétendre des mêmes choses? Aussi, la question se pose à nous. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas te retrouver auprès du Seigneur. Je te souhaite le plus tard possible. Mais qu'en est-il de ce que tu vas amener devant le Seigneur, du dépôt que tu as reçu? Qu'en as-tu fait? S'est-il altéré? En as-tu perdu des morceaux? Ou est-ce que tu peux au moins le restituer dans son intégralité? Et est-ce que encore mieux, tu l'as fait valoir? Tu l'as fait croître? Et à ce moment-là, eh bien, tes œuvres te suivent. Parce que faire valoir le dépôt, c'est effectivement accomplir des œuvres pour le Seigneur. Et en principe, on ne paraît pas devant Dieu les mains vides. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu, de ce que le Seigneur t'a confié, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Paul avait confiance dans le Seigneur. En tant que chrétien, nous aimons recevoir de Dieu, non? On aime recevoir de Dieu. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on pense y recevoir de Dieu. On aime recevoir de Dieu. Nous aimons que le Seigneur nous parle. Parle-nous, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Mais nous avons parfois du mal à considérer notre responsabilité dans le fait d'avoir reçu une parole du Seigneur, d'avoir reçu un tel dépôt. Parce que tout ce que vous entendez se dépose en vous. C'est un dépôt de Dieu dans vos vies. Dieu vous donne son trésor. Il vous ouvre son trésor, le ciel. Il le place dans vos cœurs. Il investit dans vos vies. Est-il en droit d'espérer un retour sur investissement? Est-il en droit de croire que ce dépôt ne va pas être enterré? Je sais que tu es un maître difficile, alors j'ai eu peur, j'ai enterré tout ce que tu m'as donné. J'en parle à personne, je dis rien, je veille dessus jour et nuit pour... J'ai gardé toutes les prédications du pasteur, hein, je garde tout ça précieusement. Mais t'en fais quoi d'autre? Ah, rien, c'est juste pour moi. Mais non, tu es appelé à le faire valoir, cela. Et on devrait prier, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'accordes, pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que je reçois de toi. Mais Seigneur, que ça tombe pas là, dans un coffre fermé à double tour, que j'ouvrirai ou que tu ouvriras lorsque j'arriverai devant toi et je restituerai exactement tout ce que tu m'as donné. Non. Quel était le fondement de cette confiance de l'apôtre? Pour Paul, connaître Christ était suffisant pour placer toute sa confiance en lui. C'est pourquoi il était convaincu que le Seigneur était capable de garder sûrement le dépôt qu'il avait mis en lui. Et il dira dans 2 Timothée 1:12, « Car je sais en qui j'ai mis ma confiance, dit Paul, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, c'est pourquoi j'ai une ferme conviction. Et toi, en qui tu as mis ta confiance? Et est-ce que cette confiance dans celui dans lequel tu l'as mise t'amène à dire, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder ce qu'il a mis en moi. Nous devons réaliser que ce que Dieu nous confie, il en prend soin lui-même et c'est encore là une grâce formidable. Et ça vaut pour tout ce que Dieu nous confie. Dieu nous confie des enfants, prend-il soin de nos enfants? Oui, et vous pouvez prendre énormément de choses que Dieu vous a confiées, vous verrez que Dieu continue à s'investir dans ce qu'il vous a confié. Il ne dit pas, tiens, je te le confie et puis on verra à la fin des temps si tu t'en es bien occupé. Non, il te le confie, mais il est toujours pleinement investi dans ce qu'il t'a confié. Ça lui appartient toujours. Et il veille lui aussi dessus. Voilà ce que Paul désirait transmettre à Timothée et que je souhaiterais que chacun réalise ce matin. C'est Dieu lui-même qui garantit l'évangile, c'est donc de sa responsabilité de le préserver. Et Dieu fait son œuvre, et Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies. Certes, nous constatons une apostasie grandissante dans l'Église, et particulièrement dans notre pays, dont les racines sont quand même chrétiennes. Mais aujourd'hui, notre pays va davantage dans les religions du Nouvel Âge, et j'en passe. On constate une apostasie grandissante dans l'Église, et particulièrement dans notre pays, tandis que notre génération abandonne la foi peu à peu. Seulement, j'oserais vous dire, n'en soyez pas effrayés, ni même étonnés, et encore moins troublés. Pourquoi ? Parce que la Bible le dit. Il faut que ces choses s'accomplissent. Au point que Jésus dira, mais trouverai-je la foi lorsque je viendrai sur terre, lorsque je reviendrai ? La question se pose. Puissions-nous être trouvés parmi ceux qui ont la foi, de ceux qui conservent et qui gardent le dépôt précieusement, de ceux qui le font valoir ? Il est vrai que Dieu a confié son trésor à des faibles créatures faillibles. Il a placé son trésor dans des vases de terre fragiles, selon la deuxième de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pas très costaud, un vase de terre. Hein. On n'est pas des coffres-forts, on n'est pas la Banque de France. On est des vases de terre fragiles, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Waouh! On aimerait que les vases soient jolis, beaux. Non, Dieu il a choisi des vases faillibles, faibles, fragiles, pas terribles, pour que le trésor prenne tout son sens à l'intérieur. Que l'extérieur ne vienne pas remporter les suffrages, alors que l'important c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Comme chrétiens, nous devons faire notre part pour garder et défendre la vérité. La vérité biblique. Vous savez, certains chrétiens disent, il y a une vérité. Moi, je ne dis pas, il y a une vérité, il y a plusieurs vérités. Mais il y a la vérité biblique, la vérité de Dieu. Le monde a sa vérité. Qu'il avance avec sa vérité. De dire, il y a une seule vérité, ce n'est pas vrai. Jésus est la vérité, c'est une personne. Mais des vérités, il y en a plusieurs. Selon les endroits où vous vivez dans le monde, les gens ne pensent pas tous les mêmes choses. Ils pensent que faire ça ou faire ça, pour eux, c'est une vérité. On ne va pas discuter sur les vérités de ce monde. Moi, je parle de la vérité biblique, de ce que la Bible m'enseigne. Pour ma vie en tant que croyant, c'est la vérité de Dieu pour moi. Je ne l'impose à personne. Je la suis moi. Nous sommes appelés à défendre cette vérité qui est la nôtre. Et à expliquer pourquoi nous croyons. Et en quoi nous croyons. Et en quoi ces choses construisent nos vies, édifient nos vies. Néanmoins, en confiant l'évangile entre nos mains, le Seigneur n'en a pas ôté les siennes. Il est finalement le gardien ultime et il préservera la vérité qu'il a confiée à l'Église et à chacun de nous. Les parents qui ont enseigné leurs enfants dans l'Évangile et que l'enfant est devenu grand et devenant grand a abandonné les voies de Dieu. À quoi pensent ses parents ? Qu'un jour ou l'autre, ce qui a été semé portera son fruit. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait leur part, mais ils ont confié aussi cette semence, cet évangile, cette bonne nouvelle au Seigneur qui va faire croître. C'est lui qui fait croître. Il n'est pas détaché de la semence, il n'est pas détaché du dépôt. Il continue à agir, même quand nous on ne peut plus, lui continue à faire son œuvre. Ce qui a été semé, tôt ou tard va pousser. Ça a été semé. J'ai confiance. Mais la question demeure, dans quelle mesure le dépôt de sa vérité est-il en sûreté avec nous, en nous ? Parce que j'ai la capacité de dénaturer le dépôt. Il y en a qui l'ont fait. De le perdre, de le mépriser, peut-être même d'en rejeter tout ou partie. La plus grande responsabilité que puisse avoir un croyant, c'est de préserver et de défendre l'intégrité de la parole. C'est même pas l'intégrité de sa personne, puisque certains sont morts pour avoir défendu la parole. Ils n'ont pas maintenu leur intégrité personnelle. Ils ont même été bafoués, certains, rejetés en rapport de la parole. C'est l'intégrité de la parole, c'est la préservation de la parole. Et nous savons que cette intégrité n'est pas préservée en enterrant son talent, mais en le faisant valoir et fructifier. Et un tel encouragement, une telle exhortation est individuelle, mais elle vise aussi le bien collectif et le maintien du témoignage du Seigneur dans ce monde. On a beaucoup insisté sur le fait que l'expérience spirituelle est une expérience personnelle et individuelle. Tu dois accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Mari, tu ne sais pas si tu sauveras ta femme. Femme, tu ne sais pas si tu sauveras ton mari. Vous devez accepter le Seigneur personnellement, oui. Mais pas pour que ça reste individuel ou individualiste. Tu as reçu le Seigneur pour ta vie que tu as investi auprès des autres. Le salut est individuel, mais vivre sauvé ne réclame pas de l'individualisme. Nous sommes sauvés pour servir, pour aller vers les autres. Tout cela vise le bien collectif, le maintien du témoignage du Seigneur. Ce que nous devons garder, c'est le dépôt tout en le faisant valoir. Et c'est précisément sur cette base que nous aurons des comptes à rendre. Entre ce qu'on a reçu et ce qu'on a fait valoir. De toute évidence, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour qu'il puisse agir librement à cette fin, il faut que nous mettions de côté tout ce qui vient de l'homme naturel, la chair, et réaliser que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien apporter et tout à recevoir. En toute logique, si Paul parle du bon dépôt, c'est qu'il y en a aussi un mauvais. Alors nous devons prier et nous sanctifier en demandant au Saint-Esprit de purifier tout ce qui caractérise en nous le mauvais dépôt. Dans Galates 5, 19 à 21, en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être le seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet, celui qui commet de telles actions, et Paul est sévère, n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, c'est-à-dire n'a aucune part au vrai dépôt. L'autre jour, dans une pizza, c'était, il peut contenir des traces de poisson, alors que c'était une pizza à la viande. Et ce que je me dis, c'est malheureusement, de telles mentions ne sont pas apposées sur les chrétiens. Peut contenir quelques traces de débauche ou d'un esprit de rivalité inspiré par des ambitions égoïstes. Chrétien, mais peut contenir Ou encore, vous pouvez trouver quelques traces de sensualité, de superstition, de jalousie ou un soupçon de mauvais caractère et d'accès de colère. Et l'objectif, c'est de faire disparaître toutes ces traces-là. Et seul le Saint-Esprit, qui peut nous faire pénétrer dans l'intelligence et la jouissance des sujets divins et nous communiquer ce qui est de Dieu et ce qui plaît à son cœur et convient à sa gloire, seul lui peut nous amener à changer et à nous sanctifier, à faire disparaître encore ces traces qui restent. C'est pas normal dans une pizza à la viande d'avoir du poisson. Pas normal. Nous sommes encouragés à discerner au sein de la présence de Dieu toute notre faiblesse et toute notre incapacité. Car c'est ainsi que nous serons disposés à fuir tous les discours vains et profanes en ne comptant pas sur nous, mais sur le Seigneur. Nous sommes encouragés ce matin à saisir le prix de la vérité de Dieu. Cette vérité contenue dans la parole, dans sa parole, est résumée dans la personne du Christ, qui incarne toute la parole. Cette vérité que Dieu veut encore révéler dans la vie de ceux et de celles qu'il appelle au salut. Mais réalisons que si l'assemblée d'Éphèse à cette époque avait gardé la parole et les principes essentiels de la doctrine, ils avaient un bon pasteur. Ah oui, ils avaient Timothée, qui veillait sur le dépôt. Paul savait les dangers qui menaçaient cette église en raison de l'imagination dévoyée de certains hommes et du légalisme religieux. Et à ce propos, nous constatons un peu plus tard, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, que le Seigneur va adresser un message à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, les judaïsants, ceux qui venaient détourner la doctrine. Je sais que tu les supportes pas, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as gardé la doctrine, église d'Éphèse. Tu l'as gardée. Mais tu as eu de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse avait gardé le bon dépôt de la doctrine, de la parole de Dieu, mais avait tristement perdu son premier amour. Elle avait su garder la parole, mais en avait perdu l'esprit. Si tu gardes l'amour mais que tu as perdu la parole, ça ne sert à rien. Mais si tu as gardé la parole et que tu as perdu l'amour, ça ne sert à rien, voire pire, tu vas tuer avec la parole. Il aurait mieux valu que tu la connaisses jamais. La menace légaliste avait frappé et avait tristement atteint son objectif. Pour éviter de tels périls, le passage d'Acte 13 nous donne le secret de la vraie connaissance et de la vraie intelligence spirituelle. On reconnaissait les disciples pour avoir été avec Jésus. On ne reconnaissait pas les disciples parce qu'ils avaient des diplômes, parce qu'ils avaient fait des études bibliques ou je ne sais pas quoi. Mais on les reconnaissait parce qu'ils avaient été avec Jésus, parce qu'ils fréquentaient Jésus, parce qu'ils se tenaient avec Jésus, parce qu'ils vivaient dans la communion de Jésus. Avec Jésus, être en communion avec lui, c'est la source de la vraie connaissance. De la connaissance qu'on acquiert de lui, de la connaissance de lui-même. Ainsi, l'activité de l'esprit doit se manifester dans toute la vie du chrétien. Nous devons marcher par l'esprit, selon Galates 5, 16. Nous devons prier par l'esprit, selon Éphésiens 6, 18. Nous devons adorer par l'esprit, selon Jean 4, 24. Nous devons être conduits par l'esprit, selon Jean 16, 13. Jouir par l'esprit de la communion avec le Seigneur et des choses que nous attendons, selon Éphésiens 14. Et nous devons nous laisser enseigner par l'esprit, selon 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Tout doit se faire par l'esprit. Et le bon dépôt, il doit être immergé dans une vie de l'esprit. Nous devons le faire valoir par l'activité de l'esprit qui est en nous. Et pour y parvenir, nous devons fuir tout ce qui est dans notre volonté, parce que notre volonté, elle en a des désirs, contraires à ceux de Dieu. Nous devons fuir tout ce qui est de notre volonté, de notre imagination et de notre propre esprit pour laisser à Dieu toute la place dans notre vie, dans notre cœur, dans l'assemblée, de sorte que l'esprit agisse en nous et dans l'assemblée, fasse jaillir la louange et descendre sur nous la bénédiction et produise l'édification. Gardons le bon dépôt comme les sentinelles qui veillent sur le trésor du palais. Sans oublier que nous sommes également des ouvriers appelés à dispenser la parole de vérité, comme Paul dira à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé. Pas un homme qui critique, mais un homme éprouvé. Un homme qui a laissé Dieu agir en lui, qui ne s'est pas contenté de dire chez les autres ce qui n'allait pas. Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Et j'oserais rajouter, dans 2 Timothée 1,13, retiens, parce que le conseil de Paul était là, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, ce dépôt que je t'ai transféré, Timothée, cet héritage donné de mon vivant, j'ai pas attendu de mourir pour te le transférer. Tu l'as depuis que je te connais, je te l'ai passé. Mais ô Timothée, retiens, garde dans la foi et dans l'amour. Perds pas l'amour, Timothée. Si tu perds l'amour, le dépôt va être altéré. Dans la foi, dans l'amour, garde ces choses. Et dans 2 Timothée 2,1, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce en Jésus. Sois en Jésus, Timothée, parce qu'il n'y a que en Jésus que ce dépôt a un sens. Certains peuvent parler de la Bible, mais n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ça ne sert à rien. Si Jésus n'est pas dans une vie, connaître la parole de Dieu ne sert à rien. C'est la présence de Jésus qui change tout. C'est la présence de Jésus qui transforme les vies. Ça ne veut pas dire que la parole n'est pas importante. Parce que quand Jésus est là, la parole doit être là. La connaissance biblique doit être là. Mais s'il vous plaît, n'allons pas chercher de la connaissance biblique sans la présence du Christ. Ne passons pas du temps à étudier sans nous mettre à genoux. Ne cherchons pas à obtenir une connaissance intellectuelle sans avoir la connaissance du Seigneur qu'on va chercher tous les jours dans la prière, sans vivre à son contact tous les jours. Le Seigneur faisait des études bibliques avec ses apôtres, croyez-moi. Mais il savait passer du temps devant son Père avec eux. Il leur fera même le reproche. Vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Les apôtres, hein. On pourrait se poser la question, et nous? À l'heure de la tentation, à l'heure des combats, qu'en est-il de notre vie de prière et d'intimité avec le Seigneur? Pour garder le bon dépôt, cette vie d'intimité est essentielle et fondamentale.